coq chanté jour paraît, tout s'est debout dans les villages.
Le coq chante. Sayouba Traoré.
La semaine dernière, nous vous avons parlé de l'aéronautique et les applications spatiales au service du développement économique et social de l'Afrique à l'occasion d'un colloque international organisé au siège parisien du Centre national des études spatiales. Aujourd'hui, nous allons parler de la stratégie spatiale de l'Union africaine. Les diplomates et les fonctionnaires internationaux l'appellent l'agenda 2063. Ce que les spécialistes appellent technologie spatiale, c'est tout simplement les outils modernes que vous avez entre les mains. Internet, téléphonie mobile, guichet automatique des banques, le GPS de votre voiture qui vous montre le chemin, tous ces équipements qui fonctionnent via des satellites qui tournent autour de notre planète Terre. Tout cela suppose qu'un pays doit pouvoir disposer des équipements et des techniciens à même de faire fonctionner cet équipement au quotidien. On voit bien que tout cela n'est pas à la portée de tout le monde. Donc si un pays n'a ni les moyens financiers ni les savoir-faire techniques nécessaires, il doit conclure des alliances avec ceux qui ont le pouvoir spatial. Ce que nous venons de dire, c'est la problématique de base. Et pour comprendre entièrement le problème, il faut connaître l'entité appelée Union africaine. Il y a actuellement 55 pays membres de l'Union africaine qui s'étend sur une superficie de 29 922 059 km² avec 24 165 km de côte. Il se trouve que cet espace de 55 pays membres est l'entité politique qui a la plus faible connectivité au monde. Cependant, chacun a conscience de l'impact que la science et la technologie spatiale pourraient avoir sur la résolution des problèmes qui se posent au continent. On comprend donc pourquoi les diplomates ont mis sur pied une politique spatiale de l'Union africaine en 2016. Pour en parler, nous avons trouvé l'homme qu'il faut. L'Ivoirien Tidiane Ouattara est expert en sciences spatiales de la Commission de l'Union africaine.
Encore une fois, merci pour l'opportunité que vous nous donnez d'expliquer aux auditeurs africains et même aux partenaires de l'Afrique que l'espace, la science spatiale, qui est aujourd'hui dans tout notre quotidien, nécessite, pour un continent comme l'Afrique, qu'on coordonne les efforts, qu'on se mette ensemble pour pouvoir répondre aux besoins des citoyens africains en ce qui concerne l'utilisation de l'espace pour leur quotidien. De ce fait, la Commission de l'Union africaine a développé une politique et une stratégie spatiales qui ont été adoptées par les chefs d'État et de gouvernement en 2016.
Je vais essayer de comprendre, c'est-à-dire ce qu'on appelle l'espace, en fait, je sors mon téléphone portable, j'appelle mon correspondant, mais moi, utilisateur, je ne sais pas que cet appareil a été conçu à dessein, et dans son fonctionnement, il utilise un dispositif qui utilise des satellites, qui utilise l'espace.
Justement, c'est simplement bien expliqué comme ça. Effectivement, lorsqu'on fait des communications par cellulaire, aujourd'hui, on se rend compte qu'on n'a pas toutes les installations qui doivent être à terre. Donc, c'est par le satellite qu'on passe. Et donc, ça, c'est une partie des sciences spatiales. Donc, la communication, la retransmission des émissions de télévision, et des émissions de radio, etc. On n'a plus besoin d'aller installer des poteaux partout sur le territoire, mais avec le satellite, on couvre pratiquement tout le territoire. Ça, c'est un aspect. Un deuxième aspect, à partir des satellites, on peut observer notre cadre de vie. Donc, il y a beaucoup d'applications au niveau de l'agriculture, par exemple. Ça permet à l'agriculture de se développer en ce sens qu'on peut identifier les zones propices à l'agriculture. Et aussi, ça peut permettre aux États de faire rentrer beaucoup d'argent en ce sens qu'avec le positionnement par satellite qu'on appelle GPS communément, l'État peut savoir quels sont les véhicules, par exemple, de l'État qui sont mal utilisés, quels sont les camions, parce qu'il y a des pays qui ont des accords, donc qui ont des tarifs préférentiels dans les aéroports. Les camions, deux fois, viennent, se servent et reversent les produits sur le marché local, alors que c'était censé aller dans un autre pays avec le tarif préférentiel. Donc ça permet aux États de mieux contrôler les ressources.
Restons dans le cadre du vie. Il y a un fleuve. Un fleuve, il ne connaît pas de frontières. Il ne connaît pas les frontières des États, ce n'est pas son problème. Mais il se trouve qu'il y a beaucoup de gens qui dépendent de la qualité justement de ce fleuve-là pour leur vie quotidienne, que ce soit agriculture, élevage et tout ça. Alors, pour surveiller ce fleuve, ce que vous appelez observation du cadre de vie, l'espace, c'est vraiment l'outil idéal, quoi.
Votre exemple est un très bel exemple, en ce sens que vous avez ce que nous appelons les eaux frontalières, les rivières et même les eaux souterraines qui peuvent avoir leur source dans un pays et couvrir plusieurs pays. Donc ces eaux-là, qui sont d'intérêt commun, se doivent d'être surveillées ensemble. Et l'espace, les satellites, nous permettent d'avoir des informations de façon transparente sur la qualité, sur l'exploitation et même sur toutes les activités qui se passent autour de ces eaux. Donc ça permet aux décideurs, ensemble, de décider comment ils vont gérer ces ressources communes. Il en est de même pour la forêt, il en est de même pour les zones marines et côtières. Il y a des bateaux qui viennent facilement pêcher sur nos eaux et on ne sait même pas, parce qu'ils sont peut-être à 200 km des côtes, et les États n'ont peut-être pas forcément les moyens, mais avec l'espace, les satellites, on peut facilement savoir ces navires, et on connaît ces navires qui pêchent sans autorisation, et même les traquer et voir leurs déplacements.
Alors, on va rester dans le cadre de la pêche que vous avez effleurée. Et les États africains viennent de mettre sur pied ce qu'ils appellent un cluster, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'États de la façade maritime qui ont des intérêts communs à surveiller les espèces de poissons, comment tout cela se passe, l'exploitation et tout ça. Et là, c'est vraiment ce qu'il faut, quoi, le spatial.
Tout à fait. En plus du cluster, je vous fais remarquer aussi que le programme des Nations Unies ont deux conventions qu'on appelle la Convention d'Abidjan et la Convention de Nairobi, qui, au-delà des ressources, parle de la protection et de la conservation des ressources. Et le satellite permet d'identifier les zones appropriées pour les bancs de poissons.
Ah, par exemple, le thon en Côte d'Ivoire.
Tout à fait, et tout à fait. Et je crois que, définitivement, c'est un outil de gestion, de prévision, de planification et des décisions.
Il y a un autre problème, s'il y a des avantages, il y a des inconvénients. Lancer un satellite coûte cher.
L'espace coûte cher, comme on le dit, mais aucune nation dans le monde n'aborde l'espace seul. C'est en cela que mettre les forces africaines ensemble, 55 pays africains, pourront éventuellement, plus facilement, en partenariat avec l'Europe, la Chine, l'Inde et les États-Unis, le Canada, pourraient éventuellement aborder le problème spatial de façon gagnante. En ce sens que, des fois, on n'a pas besoin de refaire la roue. Les satellites existent, il s'agit de négocier les prix d'utilisation de ces satellites et là, si nécessaire, de lancer nos propres satellites de telle sorte que les Africains, les citoyens africains puissent en tirer avantage.
Les chiffres sont édifiants. L'Afrique représente 20% de la superficie de la Terre. Autre chiffre éloquent, en 2013, l'Afrique a consacré moins de 100 millions de dollars dans cette affaire, soit moins de 0,2% du budget spatial mondial. et en termes de performance dans le secteur spatial, un seul pays sur le continent africain, à savoir l'Afrique du Sud, s'est classé parmi les 30 pays les plus importants en 2013. Avant 2017, seuls 4 pays africains possédaient un engin en orbite géostationnaire, l'Algérie, l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Nigeria. Depuis cette date, l'Angola, le Ghana et le Maroc ont eux aussi un satellite en orbite. Ce manque d'investissement et de performance dans le secteur spatial limite ainsi le potentiel d'un secteur qui peut fortement contribuer à résoudre les problèmes dont souffre le continent africain. Ainsi donc, le mot stratégie signifie que soit les 55 pays unissent les efforts pour lancer un satellite commun, soit on va négocier avec quelqu'un qui a déjà un satellite.
Comme je vous dis, il y a plus de 2000 satellites dans l'espace. Et donc chaque satellite vient avec une application particulière. Et des fois, il y a des pays africains, sinon pas des fois, il y a des pays africains qui ne sont pas aussi riches que les autres. Nous avons par exemple le Nigeria, l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Maroc.
Là, c'est des puissances.
Voilà, qui sont très puissants comme pays en Afrique, qui ont des agences spatiales. Et il y a d'autres nouvelles agences spatiales qui commencent. Ces gens peuvent tirer ceux qui n'en ont pas. Nous parlons du Mali, du Niger, de la Côte d'Ivoire, du Botswana, du Lesotho, de Tanzanie, qui n'en ont pas. Mais les besoins restent là aussi. Et donc, travailler ensemble, ça permet aux plus forts de tirer les plus faibles, mais ça permet aussi aux plus forts d'avoir un petit marché à l'intérieur de l'Afrique. Quoi qu'on dise, ce marché est actuellement entre les mains de ceux qui sont hors de l'Afrique. Alors donc, nous, à la Commission de l'Union africaine, notre position, c'est de se battre, de défendre les intérêts des citoyens, tels que mandatés par les chefs d'État et de gouvernement.
Défendre les intérêts des citoyens, de toute façon, vous n'avez pas le choix, parce que les utilisateurs sont en Afrique, et les détenteurs de la chose sont hors d'Afrique.
Tout à fait. Et pour nous, quand vous allez dans certains pays, la télécommunication est très chère. Alors le satellite, donc les sciences spatiales, permettent de réduire ces coûts-là. On se sent que si nous sommes ensemble en tant que continent, en mettant en œuvre la stratégie et la politique spatiale africaine, nous sommes en meilleure position de négocier des prix qui sont favorables à nos citoyens.
Alors, dans le domaine de la santé, comment cette affaire-là peut intervenir?
Par exemple, la télémédecine. La télémédecine a deux niveaux. Au niveau action, au niveau prévention. Au niveau prévention, par exemple, les médecins peuvent, à distance, en utilisant la télécommunication par satellite, poser le diagnostic et proposer des méthodes de traitement pour des malades qui sont dans des zones très éloignées.
Le médecin peut être à Abidjan. Moi, je suis dans mon village et il y a des appareils qui permettent aux médecins de savoir mon état sanitaire.
Je vous prends un truc très simple, le cellulaire. Du village, quelqu'un peut photographier une plaie que vous avez, une plaie béante. Et un médecin à Abidjan ou un médecin à Accra pourra éventuellement analyser cette plaie et proposer des méthodes de traitement, des médicaments qui pourraient éventuellement aider le patient. Ce qui n'était pas possible avant parce qu'il fallait faire déplacer le médecin ou le patient. Et donc ça, on gagne en coût, on gagne en efficacité et les soins peuvent pénétrer beaucoup de maisons, même dans les hameaux. Donc, à partir de ce moment, ça c'est la télémédecine. Deuxièmement, la e-santé, ce qu'on appelle l'information sanitaire. Des fois, quand vous allez à l'hôpital, on vous donne une radiographie que vous avez faite tout et tout. Quand vous allez à la maison, pour mille et une raisons, vous savez nos conditions de préservation et autres. Ces clichés sont perdus et quand vous repartez, vous repayez. Donc, avec le e-santé, une fois que vous avez cette information, déjà, elle peut être dans une base de données.
Elle est déjà stockée, donc je ne risque pas de la perdre.
Pas du tout, pas du tout. Et donc, un médecin n'importe où dans le monde peut avoir accès sur votre propre requête, parce que c'est des informations privées d'ailleurs. Alors donc, ces informations privées obéissent aussi aux lois que nous appelons les lois sur les informations privées. Donc, n'importe quel médecin peut avoir accès à cela et vous pouvez toujours revenir chercher ces clichés dépendamment du délai d'évolution de votre maladie. Par exemple, si votre maladie évolue très vite, les médecins demanderont de nouveaux clichés. Mais si c'est une maladie qui stagne ou c'est une maladie qui demande un intervalle de temps un peu large pour être revisité, définitivement, vous ne repayez plus.
Une dernière question, M. Ouattara, il faut reconnaître que tout cela, c'est très savant. les mots que vous utilisez, c'est très pointu et puis c'est nouveau pour nous.
Mais justement, et je dis toujours aux gens, je donne l'exemple des téléphones. Quand nous étions petits en Afrique, nous avions des téléphones fixes. Et dans le village, il y a peut-être un ou deux qui avaient le téléphone et tout le monde courait y aller. Ça nécessitait des poteaux, des infrastructures physiques. Aujourd'hui, tout le monde a le cellulaire. Alors nous avons fait un saut. On n'a pas eu besoin d'installer des poteaux partout. L'espace est dans la même dimension. C'est-à-dire que les produits de l'espace sont très simples. On n'a pas besoin d'être expert en sciences spatiales, mais on l'utilise. En ce sens que nous travaillons avec les différentes communautés, les pêcheurs, les agriculteurs, pour ne leur donner que l'information dont ils ont besoin. Ils n'ont pas besoin de connaître la science spatiale, pas du tout. Je donne l'exemple de ma maman. Quand j'appelle ma mère, je suis à l'étranger, quand j'appelle ma mère, elle n'est pas là à l'école, elle a plus de pratiquement 60, 80 ans aujourd'hui. Mais lorsque le téléphone sonne, on lui a dit « vous appuyez sur le vert ». Vous finissez de parler avec votre fils, vous appuyez sur le rouge. Je communique avec ma mère. Ma maman n'a pas besoin de savoir la télécommunication, mais au moins elle sait qu'elle parle avec son fils. Le rouge et le vert existent dans ma langue. Je suis du là et donc dans cette langue, le vert et le rouge existent. Et c'est comme ça que nous allons pouvoir vulgariser, informer les Africains qui n'ont pas besoin d'aller à l'école forcément pour ça, qui n'ont pas besoin de faire les sciences spatiales, mais d'utiliser les produits et les services spatiaux.
Personnellement, j'ai toujours été à la banque, j'étais au guichet automatique, je mets ma carte, je prends l'argent. C'est hier que j'ai appris qu'il y avait du spatial dedans, moi je ne le savais pas.
Tout à fait, et donc ça c'est la transmission d'informations par ce que nous appelons les satellites codés. Ça veut dire quoi? Il y a des satellites qui sont dédiés simplement à transférer ces informations au niveau financier. Donc, lorsque vous faites une demande, automatiquement, la demande va à votre banque et votre banque est interrogée, votre banque répond immédiatement. Ce n'est pas des gens qui répondent, c'est des machines qui communiquent entre elles. Ce qui fait que quand vous venez, vous prenez votre argent et c'est tout de suite débité sur votre compte. Donc, vous pouvez même avoir la mise à jour de votre compte. Effectivement, c'est l'espace qui a favorisé cela parce que les satellites transmettent et les satellites transmettent rapidement les données en fractions de secondes.
Mais tout cela fait peur.
Oui, il n'y a pas à avoir peur, en ce sens que, et votre crainte est fondée, en ce sens que il s'agit de gestion d'informations privées par moment. Mais nous pensons que les politiques en place, les stratégies mises en place par les banques elles-mêmes, par les fournisseurs de services eux-mêmes, permettent de réduire ces risques qui existent bel et bien, mais qui sont des risques qui sont tout à fait contrôlés.
Je vous remercie.
Merci beaucoup, le plaisir fut pour moi.
Cette stratégie spatiale de l'Union africaine ou Agenda 2063 vise des résultats probants dans un délai court, à savoir, entre autres, l'établissement des éléments de gouvernance nécessaires à un programme spatial durable, les centres régionaux d'excellence inclus, un programme spatial continental établi, des plateformes technologiques appropriées, le développement du capital humain s'appuyant sur le programme spatial continental, la création de partenariats stratégiques intercontinentaux et internationaux, une capacité spatiale en interne en termes de plateformes technologiques et de capital humain, des entreprises dérivées issues des activités et des programmes spatiaux, très important, des partenariats stratégiques à l'intérieur et hors d'Afrique, se consacrant à des missions, des applications, des produits et des services spatiaux viables. Pour rappel, nous vous avons parlé aujourd'hui de la politique spatiale de l'Union africaine ou Agenda 2063. Il y avait aujourd'hui à la réalisation Eva Piedel, au micro Sayuba Traoré. Pour retrouver cette émission, RFI.fr. Pour ceux qui veulent nous écrire, lecoqchante@rfi.fr. Et vous pouvez également consulter notre page Facebook, Le Coq Chante. Une dernière chose, pour écouter cette émission sur votre téléphone mobile, vous téléchargez au préalable l'application RFI Pure Radio, vous faites votre choix parmi les 14 langues et vous vous laissez guider.